Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence démonstration. Je vais juste vous présenter ce dont on va vous parler pendant approximativement 50 minutes. On va vous parler des yokai à travers le rakugo, qui est un art traditionnel japonais, un art de la parole. Donc on peut le traduire littéralement par parole qui est une chute. Et on va vous parler de cet univers des yokai. N'hésitez pas, ça va durer 50 minutes. Vous avez le droit de sortir et d'aller puiser d'autres choses ailleurs en faisant attention juste que les bruits, les portes ne s'entendent pas trop. Donc 50 minutes de conférence avec deux histoires, donc deux nouvelles histoires de rakugo. Je ne sais pas s'il y en avait qui étaient, si je reconnais, qui étaient dans la salle hier soir. Donc vous allez avoir aussi au milieu de la conférence, au début, à la fin, deux histoires de rakugo. Juste pour situer les choses et que vous vous sentiez libre de profiter de l'instant. Et on va commencer dès maintenant.
Bonjour. Bien, bien, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce matin. Mais il n'est pas réveillé le compteur. Hein. Bon, alors, c'est parti. Juste pour prendre la température, vas-y, bonjour, comme ça, parce qu'on part tous au Japon. Donc, Konnichiwa.
Konnichiwa.
On est d'accord, ils sont tous parfaits, c'est bien, c'est bien. Watashi wa Stéphane Ferrandez Odes. Je m'appelle Stéphane Ferrandez et je fais du rakugo. Sandrine Garmuglia est auteur et adapte les textes en français de rakugo. Le rakugo, qu'est-ce que ça peut être? Certains savants diront que c'est un art traditionnel japonais de la parole, séculaire, mais néanmoins humoristique, qui tire son origine du bouddhisme. Moi, je préfère le qualifier de stand-up assis, plus rapide. En fait, pour résumer, le rakugo, avec cet éventail et le tenugui, cette serviette de tissu, je peux reproduire les gestes du quotidien à l'infini et devenir qui je veux, tout en restant assis en seiza, à genoux, sur mon zabuton. Bref, c'est vous qui faites tout le travail grâce à votre imagination. Et de l'imagination, les Japonais n'en manquent pas. Par exemple, les yokai. Tout le monde sait ce qu'est un yokai? Non? Oui? Bon, je sens qu'il y a certaines personnes qui hochent la tête aussi, là, hein, pour faire comme tout le monde, mais qui en fait ne suivent pas, et ça part. Donc, je vais vous expliquer brièvement. Yokai peut se traduire par phénomène étrange, ou créature effrayante, ou séduisante. Oui, d'ailleurs, dans le dictionnaire des yokai de Mizuki Shigeru, il y a une très belle définition.
Oui, oui. Yokai englobe tout ce qui nous entoure sans appartenir à notre monde. Esprits, fantômes, monstres, démons familiers, vieux objets doués d'une âme, animaux fabuleux ou à métamorphose, obsessions ou idées fixes incarnées.
Et c'est fou, non? Non, c'est vrai. Imaginez que des objets, par exemple, au bout de 100 ans, peuvent prendre vie. C'est incroyable, oui, parce qu'au Japon, les objets ont une âme. Au bout, et cette âme évolue avec les années et suivant les bons ou mauvais traitements reçus. Tsukumogami, on les appelle. On en a parlé hier soir pour certains. Et c'est difficile quand même d'imaginer en France que le vase de votre grand-mère peut venir vous hanter jusqu'à votre mort. Mais pour les Japonais, non, c'est vrai. Et c'est notamment, tous ces personnages sont apparus à l'époque des estampes, à l'époque Edo. Et bon, ça aurait pu, avec l'arrivée des Occidentaux, c'est vrai, ça a failli se perdre au 19e siècle. Les croyances auraient pu devenir des superstitions, mais non. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les mangaka ont redonné vie aux yokai. Tenez, par exemple, Kuchisake Onna. Ah, est-ce que vous connaissez la femme au sourire déchiré jusqu'aux oreilles? Elle est apparue à l'ère Kancho, vers le 15e siècle. Et elle est apparue encore plusieurs fois, notamment en 1979, à Gifu. Dans les journaux, on en parlait. Oui, on se demandait qui était cette femme qui faisait la une des journaux et qui enlevait son masque chirurgical pour effrayer les enfants en leur disant « Est-ce que je suis bien jolie ?» Il y a même eu en 2007 un film sur Kuchisake Onna qui lui a été consacré, oui. Et je pense que sa carrière est loin d'être terminée. Bon, mais à propos de yokai, de yurei, il est temps que je vous présente un premier yokai. Okiku, célèbre dans tout le Japon. Mukashi, Mukashi. Il y a bien, bien longtemps, à Himeji, vivait un homme très fortuné. La richesse n'apporte pas le bonheur. Elle n'empêche pas non plus la cruauté de l'âme, ni l'homme cruel de tomber amoureux. Dans la demeure de ce seigneur vivait une servante, Okiku, une toute jeune fille, dont la beauté éclatait à chaque sourire, oui, elle ravissait les cœurs à chaque passage. Son maître n'en pouvait plus. Il lui déclara un matin au réveil qu'elle serait lui et devait l'aimer sur le champ. Il était le maître après tout. La jeune fille lui répondit qu'il était peut-être le seigneur de sa maison, mais point celui de son cœur. Bien trop jeune sans doute pour se rendre à l'amour. Furieux, le Seigneur songea à la vengeance. Sa famille possédait depuis plus des centaines d'années un jeu d'assiettes précieux. Il lui en confia la garde, mais retira auparavant du coffret un des plats si précieux.
Okiku, apporte-moi la boîte que je t'ai confiée l'autre jour. Je reçois des invités ce soir et je veux montrer les assiettes.
Hai, sugu, kashikumarimashita. Tout de suite, monseigneur.
La boîte semble plus légère qu'auparavant. Ouvre-la et compte combien il y a d'assiettes à l'intérieur.
Hai. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Seulement neuf. Laissez-moi compter encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Seulement 9 assiettes ? Où est passée la dernière ? Il devrait y avoir 10 assiettes.
Oh, comme c'est étrange, je ne comprends pas.
Je suis pourtant certaine, j'ai gardé la boîte en sûreté. Comment un plat ait pu disparaître?
Assez. Comment tu peux oser perdre cette assiette qui signifie tellement pour ma famille?
Non, je vous en prie, monseigneur, je vais bien finir par la retrouver.
Allons! Tu l'as volée, avoue-le.
Non, non, monseigneur, ce n'est pas vrai, je vais bien finir par la retrouver.
Oh, tais-toi! Je ne veux plus entendre tes mensonges. Tu as commis une terrible erreur. Ce jeu d'assiettes se transmet dans ma famille depuis des centaines d'années. Approche maintenant. Bien, tu vas recevoir la leçon que tu mérites.
Non! Non! Non, monseigneur! Non! Non! Qu'est-ce que t'es? À moi, quelqu'un! À moi! À l'aide!
L'homme la tua. Ensuite, il jeta le cadavre de la femme dans le puits du jardin.
Vous venez d'assister à la version d'Okiku, la version Rakugo d'Okiku, comme elle se joue aujourd'hui, actuellement, sur les scènes au Japon. Alors, Okiku est un yokai, une yurei, ce qui signifie un esprit évanescent. Elle fait plus particulièrement partie des onryo, qui sont les esprits vengeurs, hein, notamment des femmes qui sont souvent battues, trompées, tuées par les hommes et qui reviennent sur Terre pour accomplir leur vengeance. En effet, leur âme, as-tu une alarme, as-tu une alerte et ne pourra rejoindre l'esprit des ancêtres avant d'avoir fait une mise à jour, hein, l'accomplissement de leur vengeance. Alors, en fait, ces femmes sont mortes d'une façon trop violente ou animées d'un sentiment beaucoup trop fort, comme la haine, la passion, l'amour, pour pouvoir rejoindre l'esprit des ancêtres. Alors, comme tous les yokai, les yurei se manifestent à l'heure du bœuf, donc qui se situe entre 2 et 3 heures du matin. Alors, pour vous en débarrasser, il vous faudra soit accomplir la vengeance du yokai, soit avoir affaire à un prêtre bouddhiste qui pratiquera un exorcisme. Ou alors, la solution la plus simple, vous procurez un petit ofuda, un talisman avec le signe d'une divinité protectrice qui vous permettra d'être à l'abri des yokai. Donc les yokai ont une très très forte popularité à l'ère Edo, mais en fait existent depuis beaucoup plus longtemps dans l'état d'esprit japonais, dans l'esprit japonais. Il y a eu cet essor au XVIIe siècle, notamment avec les Yaku Monogatari Kendaikai, ce jeu des 100 chandelles, où en fait on disait qu'au bout de 100 histoires, une fois qu'on éteignait la dernière chandelle, un yokai apparaissait. Et ce jeu est devenu très populaire et a beaucoup contribué à la popularité des yokai. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle aussi, il y a eu des contes traditionnels qui font aujourd'hui figure de classique, notamment avec le personnage de Oiwa, cette femme, encore une femme, donc une yurei, qui a été défigurée par la maîtresse de son mari. Alors comme ça n'a pas suffi à la tuer, parce que c'était une crème de beauté qui contenait un poison, le poison ne l'a pas tuée, l'homme l'a jetée d'une falaise. Donc elle est revenue le hanter le jour de son mariage et elle lui est apparue à la place de son épouse et son mari a tué son épouse croyant se débarrasser d'Oiwa. C'est le personnage qui a inspiré quelque chose qui doit vous être beaucoup plus familier, le personnage du film Ring. Est-ce que vous voyez cette silhouette en kimono blanc avec cette longue chevelure? En fait, c'était tout simplement la façon dont les femmes étaient présentées lors des funérailles au XVIIe siècle. Donc les femmes, pour leur enterrement, étaient présentées en kimono blanc avec la chevelure qui était détachée. Et donc elles continuent à inspirer encore aujourd'hui.
Ah bah oui,
Et donc, nous passons.
C'est nous, c'est
oui. Les Tengu.
Les Tengu. Un jour, par exemple, si vous avez un ami japonais et vous tentez de l'épater en lui disant « Je peux lire le manga dans le texte, dans la langue de Kawabata ou hein, de Soseki », eh bien, il va vous dire « Waouh, Tengu ni naru, né ? Tu es vantard comme un Tengu. » Oui, le Tengu. Avec son long nez et sa face rouge, on le retrouve partout. Le Tengu est associé à l'arrogance, hein, puisqu'ils sont eux-mêmes souvent d'anciens personnages vaniteux, comme des samouraïs ou des prêtres orgueilleux, arrogants, qui ont délaissé la voie bouddhique. Donc ils ont été bernés souvent par des illusions ou transformés aussi en Tengu. Les Tengu prennent leur nom de Tiangu, désolé pour l'accent, j'ai pas fait chinois, mais ce qui veut dire donc des chiens célestes. Ils viennent de Chine et ils avaient avec eux une traînée, toute une réputation de voleurs d'enfants, de pyromanes, d'ennemis du bouddhisme. C'était autour du 7e siècle. Et puis ces génies, un jour, ont accepté de servir les Yamabushi, les ascètes des montagnes, qui leur ont donné ce nom d'enfant de la voie bouddhique, donc Tengu. Et ils n'ont cessé depuis de s'intégrer positivement, souvent durablement, dans le folklore populaire. Il y a beaucoup d'histoires de Tengu. Ils ont deux formes, cette forme humaine avec ce long nez rouge, cette tête rouge, ou alors avec une tête de corbeau. Mais ils partagent tous les Karasu Tengu, tête de corbeau, et donc Konoha Tengu, le Tengu à face rouge. Ils ont l'habit des Yamabushi, cet habit blanc, avec la coiffe des Yamabushi, et ils volent, ils ont des ailes. Ces deux formes de Tengu ont des ailes. Et ils peuvent se téléporter, avant de faire de la télépathie, ils ont plein de pouvoirs. Et on retrouve beaucoup d'histoires, notamment dans le Rakugo. Il y a Tengu Sabaki, l'histoire d'un homme qui a échappé à la mort grâce à un Tengu, mais il sera lui-même mis à l'épreuve par ce Tengu. J'en dis pas plus, un jour on vous la racontera. Et pour finir, on dit que ces Tengu ont enseigné aux grandes figures du Budo. Yoshitsune, ce personnage légendaire, a été donc enseigné, a reçu un enseignement de la part de Soboji, le grand chef des Tengu dans une montagne sacrée. Et on dit aussi, la légende dit, que maître Morihei Ueshiba aurait lui-même été initié par des Tengu dans sa jeunesse, non, c'est vrai. Par le compteur, par le menteur, mais on le dit. Voilà, pour ce qu'il en est des Tengu, je crois que je vous ai tout dit. Ça, c'était donc ce créateur de l'Aïkido. C'était dans la région de Wakayama qu'il aurait été initié par les guerriers à long nez, à face rouge. Sans test-né, il est d'accord, Martin. Okay.
Et tous ces personnages, en fait, là, nous allons parler du kappa. Tous ces personnages se retrouvent dans les histoires de Rakugo et viennent alimenter le répertoire du Rakugo. Le kappa en fait partie également. Alors un conseil, si vous vous promenez au Japon, ne marchez jamais seul le long des rivières, hein, car les kappas, ils vivent dans les eaux profondes. Et généralement, ils vous attendent au tournant d'un pont, se jettent sur vous, ils adorent jouer avec les chevaux, les hommes et les enfants, alors ils se jettent sur vous pour vous vider de vos entrailles. Ils peuvent être parfois un petit peu violents. Alors vous les voyez, ils ont approximativement la taille d'un enfant, ils ont une force prodigieuse. Ils ont cette allure de grenouille avec cette carapace de tortue. Leur particularité, c'est qu'ils ont le crâne creux rempli d'eau. C'est dans cette eau que réside leur force. Donc, toujours conseil d'amis, si vous vous retrouvez face à un kappa, ce sont des yokai particulièrement polis. Donc, si vous vous inclinez devant eux pour les saluer, ils ne pourront pas s'empêcher de s'incliner à leur tour. Donc, au fur et à mesure, l'eau va complètement se vider de leur crâne, ils n'auront plus de force et vous pourrez en profiter pour vous enfuir à ce moment-là. C'est un personnage aussi qui remplit les histoires du répertoire du Rakugo, notamment avec l'histoire Kappanote, la main du kappa, mais que nous n'avons pas le temps malheureusement de vous raconter aujourd'hui.
Enfin, il y a le Quand vous franchissez, on parlait avec Vernon tout à l'heure des torii. Quand vous franchissez donc les torii, ces grands portiques rouges, vous pénétrez le seuil d'un sanctuaire. Vous entrez donc sur une terre sacrée où l'on adore les dieux de la nature, les kamis. Et l'un d'eux est gardé par deux renards de pierre ou parfois de faïence qui comme ça se font face. C'est l'hôtel d'Inari, le dieu de la prospérité et de la rizière notamment. Le kitsune est alors considéré comme le messager d'Inari, un bienveillant, un serviteur d'Inari. Mais surtout, il peut vous porter chance, donc il est source de chance. Mais le renard, le kitsune, est surtout une figure populaire parce que dans la mémoire collective japonaise, c'est un trickster, un joueur de tour, c'est une créature polymorphe. Et il apparaît dans tous les arts traditionnels japonais, que ce soit les estampes kiyoé, le répertoire du kabuki, comme du rakugo, et aujourd'hui dans beaucoup de mangas et d'animés. Il est à l'origine de nombreuses mésaventures, comme dans le rakugo, qui est très drôle, Shichido Gitsune, cette fois un renard. On ne vous racontera pas non plus, vous allez voir une autre histoire, ne vous inquiétez pas. Et donc ce renard est puissant, hein, il prend souvent les formes humaines et notamment de jeunes femmes. Il va à ce moment-là, la jeune femme se métamorphoser, donc va épouser un homme et lui donner même parfois un enfant, et elle le quittera lorsqu'un événement vient à révéler sa véritable nature. On dit, ça c'est intéressant pour le rakugo qui joue sur les jeux de mots, que kitsune viendrait parfois de kitsune, dire « viens et dors avec moi », à peu près, hein, et « kitsune » vient toujours à moi. Une grosse traduction rapide, mais un double jeu de mots donc, qui conviendra au rakugo. Le renard aussi peut créer, être source, ça c'était surtout siècle dernier encore, de possession dans l'inaka, dans la campagne, avec des cas de « kitsunetsuki ». Les gens étaient possédés par l'esprit du renard. Enfin, il est important de savoir qu'un renard, avec les ans et même plusieurs milliers d'années, évolue et a des pouvoirs de plus en plus forts, et il accumule un nombre de queues impressionnant. Ainsi, au bout de 1000 ans, il peut avoir jusqu'à 9 queues. Et il y a le cas d'une renarde blanche très célèbre à 9 queues, Tamano. Voilà, Tamano no Mae, qui a fait couler beaucoup d'encre sur une période de 2000 ans, depuis la Chine, en passant par l'Inde, jusqu'au Japon. Sauf, c'est peu grave. Si. Donc voilà, il y a plein d'histoires là-dessus. Et enfin, quand même, une petite note joyeuse. S'il pleut et que vous voyez un bel arc-en-ciel, vous pourrez vous dire alors qu'il y a une noce de renard, pas très loin d'ici. Un kitsune no yomeiri. Et ça, c'est toujours signe d'un bon présage.
Alors nous allons à présent aborder également très rapidement l'animal peut-être le plus attachant du folklore japonais, le tanuki. Le tanuki, suivant son nom mythologique, Baké Tanuki, est également un animal avec pouvoir de transformation. C'est en effet un esprit des forêts qui se transforme à volonté. Alors c'est un chien vivrain. D'allure, toujours représenté d'allure assez joviale, avec un ventre rond sur lequel il tape avec l'onomatopée Pompoko, donc comme dans le film de Miyazaki. C'est un symbole de chance et de prospérité qui est représenté sur les rouleaux à partir du Moyen-Âge. Il a son allure actuelle, comme on le voit, son allure actuelle, donc bipédie, chapeau de paille, gourde. Cette allure-là a été développée également à l'époque Edo, et notamment cette particularité d'avoir un énorme scrotum qui a donné lieu à bon nombre de représentations humoristiques. Alors ça vient d'un fait beaucoup plus concret, mais qui a été détourné, c'est que la peau du tanuki est extrêmement solide et qu'on l'utilisait pour étendre l'or. Donc on utilisait pour battre l'or un minimum d'or sur un maximum de surface, et ça a donné ce détournement humoristique de la peau de tanuki. Alors le tanuki est également très très présent dans les histoires de rakugo. notamment avec l'histoire Kachigama, où un tanuki va servir, oui, il faut vous dire, la soupe de tanuki existe au Japon. Et là, c'est un tanuki qui sert une soupe à un homme avec la chair de sa femme à la place de la soupe de tanuki traditionnelle. Mais les tanuki violents viennent de Chine, au Japon. Ce sont vraiment des animaux, même s'ils se transforment, qui aiment jouer des tours, qui sont assez facétieux, mais qui restent majoritairement, principalement, sympathiques. Et c'est toujours un bon signe quand on croise un tanuki. On en a croisé deux, oui, durant nos séjours au Japon, et les tanuki deviennent parfois célèbres. Celui-ci, celui que vous voyez à l'image, a été une star du web pendant quelques années, et il est très très populaire au Japon. Donc là, il est temps de vous présenter une deuxième et dernière histoire de Rakugo sur les tanuki, qui s'intitule Gombe.
Les nuits au Japon ne sont pas silencieuses. Est-ce parce que, au loin, les hommes passent leur journée dans des jardins à faire régner l'ordre, en traçant des sillons, en alignant des pierres? Est-ce parce que les temples gardent au loin l'agitation du monde? Une fois la porte fermée. Toujours est-il qu'une fois les prêtres et les jardiniers couchés, la nuit au Japon reprend ses droits. Tout bruisse, glisse, craque et se faufile. Vous ne saurez jamais ce qui vous a frôlé, passant à pleine puissance dans votre dos. De même, que vous vous demanderez ce qui avance au-dessus de vous, de branche en branche, aérien, si proche que vous le sentez s'arrêter pour mieux vous regarder. Peut-être un singe? Et si c'était un kami, une divinité sacrée, ou pire, un yokai, une créature au pouvoir magique, de métamorphose? Mais une fois arrivé chez vous, la porte de papier refermée sur la chaleur de votre futon, le danger sera loin. Cependant, certains soirs, la forêt peut s'inviter et frapper à votre porte. Mukashi Mukashi, il y a bien longtemps, Gombe était un barbier et vivait près d'un village dans la montagne. Tous les jours, les paysans venaient se détendre chez lui après une journée de labeur dans les champs. Et chacun racontait ses joies, ses histoires, ses petits tracas à l'oreille toujours accueillante de Gombe. Chaque soir, c'était aussi le même rituel. Il leur parlait d'une voix douce. Bon, il est temps de profiter de la clarté du jour pour rentrer chez vous. À ces mots, ils s'en allaient par petits groupes, retournés vers leur chaumière. Et Gombe les contemplait, voyait leur silhouette disparaître sous le soleil couchant. Il déroulait les rouleaux de bambou tressés qui lui servaient de volets, faisaient coulisser les panneaux pour clore portes et fenêtres, prenait un bon repas et s'endormait sur son futon, comme seul dort un enfant. Quand une nuit,
Hein? Hein?
Compé.
Hein? Là, les gars, qui est-ce?
Compé.
Hein? Oui? Quelqu'un aurait-il oublié quelque chose? C'est... Oui, j'arrive, j'arrive. Oui, j'arrive.
Compé.
Ça va, ça va. Personne. Hendanane. C'est étrange. Bon. Et il se rendort. Le lendemain, après le départ des villageois, de nouveau, alors qu'il était endormi, on frappe à la porte.
Combi. Combi.
Ça va, ça va, j'arrive. Mais qui ça peut être, enfin?
Combi.
Oui, oui, voilà. Ah. T'as le mot? Personne? Encore? Mais... Qu'est-ce que ça peut être que ça? C'est... Oh! Oh, ce bruit. Oh! On marche sur le toit. Oh, pourvu que ça ne soit pas un voleur. Oh. C'est parti. C'est quand même pas un gamin qui veut faire le malin, un gamin du village. Il... Non, non, non. Je vois pas pourquoi il voudrait faire une blague. C'est... Une blague? Attends, Gombi. Attends, réfléchis. L'heure du bœuf est bientôt passée. Et tu habites près de la... Tu es dans la montagne, oui. Oh, un tanouki. Un tanouki de la montagne, ça peut être que ça. Mais oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là?
Oh. La nuit fut un peu plus difficile que la veille. Et le lendemain, alors qu'il venait de contempler les villageois sur la...
Merci à tous.
Merci à tous.